Le tapage persistait du côté de l'hostellerie, mais la curiosité comme la méfiance de Prudence se trouvaient aiguillonnées par les confidences de la grande dame. « Niez-vous que vous avez reçu le chevalier de Vaumacel dans vos appartements ?» s'enquit-elle. « Je ne le nie point. En revanche, je récuse toutes les calomnies qui ont couru à propos de cette visite. Nous n'avons jamais été seuls en mon privé. J'avais demandé à mes dames de compagnie de rester. Ces vipères qui m'ont plus tard diffamé de la plus odieuse manière. La seule familiarité que je me sois permise fut de retirer ma coiffe. Le chevalier m'a donc vu en cheveux. Et voilà tout. Nous avons conservé nos distances. Je l'ai félicité pour ses prouesses et pour l'impertinence avec laquelle il m'avait embarrassé. Je lui ai accordé le droit de m'aimer si cela lui chantait, mais je l'ai assuré qu'il n'obtiendrait jamais plus de moi que ce que j'accordais à la foule de mes soupirants. Il m'a donné sa foi par convenance sur le ton que l'on prend pour causer de la pluie et du beau temps. Il était fier de m'avoir battu à mon propre jeu et ne cherchait pas d'autre déduit. J'ai eu le sentiment qu'il ne voyait en moi que la duchesse et non la femme. Pour la première fois, j'ai craint de voir se faner ma jeunesse. Je lui en ai beaucoup voulu. Comment expliquez-vous que vos suivantes d'alors, les dames de L'Aulnay et de Brégor, aient raconté tout autre chose aux audiences? La cour est un endroit où l'on pratique indifféremment le mensonge et la vérité. Ces femmes perfides se sont découvertes quelques raisons de me haïr et de m'abaisser. Révérende mère, ne trouvez-vous pas fort étrange qu'il se soit écoulé près de 10 ans entre le tournoi de Godemas et la dénonciation qui a flétri mon nom? La mystagogue haussa les épaules. Elle s'apprêtait à répéter qu'il n'était pas de son ressort d'en juger lorsqu'elle fut coupée par un vacarme éclatant. Un appel de cor fit résonner les murs. Presque aussitôt retentit une cloche à un rythme précipité qui ressemblait au tocsin. Les sergents d'armes, les religieuses et almodies sursautèrent à l'unisson.
« Qu'est-ce que cela ?»
s'écria Prudence en se redressant. La cloche s'interrompit aussi soudainement qu'elle avait été actionnée. Mais le tumulte ne s'apaisa pas pour autant. Sous les arcades, à travers les bâtiments et les cloîtres, se propageait un tollé furieux. « Ma chère !» dit fermement Odéarde. Il serait avisé de ne point quitter ce jardin. » Elle formula ces mots avec un sourire triomphant. Elle venait de tomber le masque et rayonnait d'une joie presque sauvage. Quelque part, une lourde porte céda avec fracas et des voix poussèrent des cris d'effroi. Prudence eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cette horrible clameur faisait écho à son rêve.
« Sagesse miséricordieuse !» s'écria-t-elle. « Qu'avez-vous fait ? » ?»«
Quel dommage que vous ne m'ayez point écouté plus tôt !»
fit mine de déplorer la grande dame. La mystagogue reprit très vite ses esprits. Elle se releva et ordonna au sergent d'armes d'enfermer la prisonnière dans la maison abbatiale. Puis, serrant contre elle son hymnaire, elle courut vers la scola et le scriptorium, entraînant l'auscultatrice avec elle.
« C'est de la folie !»
cria la duchesse déchue.
« Vous allez vous faire tuer. Restez avec moi, Auriabelle. »
Ce nom ancien, ce nom renié, cingla la mère supérieure comme une gifle. Elle crut que ses jambes allaient la trahir, mais raidit sa volonté et garda la maîtrise d'elle-même. Elle entendait maintenant des hurlements féroces et le fracas du fer sous les voûtes en arc des galeries. Tout au plus, se retourna-t-elle pour lâcher, « Je ne suis plus celle que vous croyez, je ne l'ai jamais été. » Puis elle repartit en courant vers le cloître. Elle ne parvint même pas à atteindre les bâtiments monastiques. Deux copistes affolés surgirent du corridor qui desservait le scriptorium et la salle capitulaire. Le plus âgé cria « Fuyez, ma mère !» en la croisant. Derrière eux titubait un homme d'armes ensanglanté. Ses yeux croisèrent ceux de la mystagogue sans réellement la voir, et il fut rattrapé par une silhouette véloce qui le frappa dans le dos. Prudence se pétrifia en voyant une excroissance bomber soudain le torse du malheureux, avant de comprendre que l'épée qui venait de le transpercer piquait son gambison et sa cotte de maille.
« Déesse miséricordieuse !»
octa la sœur Mincende en reculant de quelques pas. Le soudard s'effondra dans un râle au pied de la mystagogue quand on lui arracha le fer du corps. Son assassin était armé en guerre, mais ne portait point de casque. Prudence fut frappée par sa jeunesse et par l'indifférence de son expression. Ce damoiseau n'avait rien d'une brute ou d'un soudoyé, mais respirait la bonne éducation. Et la religieuse n'en ressentit que plus d'effroi devant le flegme avec lequel il venait de tuer. Il ne la menaça pas, il ne lui accorda pas même la moindre attention. Ses yeux venaient de se poser sur quelqu'un d'autre dans le jardin des simples. Une jubilation soudaine éclaira son visage.
« À moi !»
clama-t-il à plein gosier.
« J'ai trouvé la duchesse ! À moi !»«
Rivalon !»
s'écria Odéhard.
« Prenez garde, mon garçon !»
Avec un grognement rageur, les deux sergents d'armes dépassèrent l'auscultatrice et la supérieure. L'arme au clair, ils se jetèrent sur le jeune combattant qui recula sur la défensive tout en continuant à appeler. Prudence s'agenouilla à côté du soudoyer abattu. Secoué de spasmes, il crachait du sang sans parvenir à reprendre son souffle. Les instants lui étaient comptés. La mystagogue lui posa la main sur le front et murmura « Acceptez l'inévitable et partez sans haine. Vous trouverez la vérité dans le sein de la déesse. » Puis elle traça la mandorle sur le visage du mourant. Quand elle releva la tête, elle eut l'espoir fugace que tout n'était pas perdu. Les sergents avaient refoulé Rivalon jusque sur le seuil du passage menant au cloître. Le damoiseau aux abois criait toujours mais risquait à chaque assaut de se faire embrocher. Il paraissait perdu quand deux silhouettes casquées et cuirassées surgirent derrière lui. Le combat fut renversé en un tournement. Les épées des sergents d'armes rebondirent contre le grand harnois des nouveaux venus. En représailles, ils furent impitoyablement sabrés, puis achevés lorsqu'ils furent renversés. Les trois assaillants s'avancèrent alors dans le jardin, l'âme ensanglantée au poing, droit vers Prudence. Celle-ci reconnut avec effarement les armoiries du premier d'entre eux. D'or à ours de sable. Elle se mit à trembler, d'indignation et d'horreur, mais refusa de céder le passage.
« Serrure distinct !» s'écria-t-elle. « Quelle est cette félonie ?»
Pour toute réponse, le chevalier l'écarta d'un revers presque nonchalant du bouclier. Le choc n'en fut pas moins violent, et la mystagogue se retrouva couchée dans des plans de livèche et de barbarie. Elle n'était pas tombée de haut. Les carrés d'herbe médicinale étant surélevés à hauteur du genou. Mais le coup lui avait meurtri l'épaule et elle fut brièvement étourdie. Des hurlements, des lamentations et un tapage de boiseries fracassées provenaient toujours des bâtiments monastiques. À cette cacophonie se mêlaient des cris de joie.
« Mère, mère, mère !»
exultait une voix passionnée. Prudence se redressa en grimaçant sur un coude. La première chose qu'elle vit fut son hymnaire jeté au sol, les lettres du seigneur de Vert éparpillées alentour. Puis elle découvrit la duchesse dans les bras cuirassés du chevalier au blason d'ours. Mais celui-ci, qui avait arraché son aume pour embrasser Odéhard, n'avait ni le crin gris, ni la figure marquée d'un vétéran. Il s'agissait d'un combattant aussi jeune que Rivalon. La grande dame couvrait de baisers ce visage rieur. Avec un coup au cœur, la mystagogue reconnut ce menton ferme et les reflets cuivrés de cette chevelure. C'était un Bromel. Les yeux de la supérieure retombèrent sur les lettres. Et la vérité lui apparut enfin avec une clarté aussi brutale que le coup qui venait de la renverser. La déesse avait pourtant essayé de la prévenir. Mais elle n'y avait vu que du feu. Comme les précédentes, ses missives avaient été destinées à tomber en sa possession, ou entre les mains du chevalier de Geld. Pour contrer les augures de la vieille déesse, la duchesse répudiée avait superposé les leurs. Le tournoi de Lindinas n'avait été qu'une énorme diversion. Les deux premières lettres qui annonçaient le ralliement du Kimark et l'évasion de Blancandin n'avaient livré la vérité que pour renforcer le mensonge véhiculé par la troisième. Dans le camp ducal, tout le monde avait cru que le seigneur de Vert défierait son père au cours des fêtes données par Anguzel. En fait, il voulait prendre Mondoir. La mystagogue se sentit plus humiliée par son aveuglement que par la violence qu'on venait de lui faire. Tout le savant échafaudage des démarches qu'elle avait entreprises pour maintenir la paix au sein de Mondoir venait d'être réduit en miettes, alors qu'elle avait toujours su qu'Odéhard de Maginois était une dangereuse créature. les larmes lui montèrent aux yeux, et elles avaient l'amertume impuissante de la colère d'antan. Elle eut envie de s'ensevelir, de se vouer aux gémonies. Mais elle ne pouvait se permettre ses faiblesses. Même dupée, discréditée, frappée, elle restait la Mystagogue de Mondoir. La responsabilité de toutes les destructions et de tous les crimes qu'elle n'aurait pas su arrêter pèserait à jamais sur sa conscience. Alors, elle se releva. Sœur Mincente avait disparu. Sa supérieure pria la déesse de lui fournir un refuge sûr. Les trois hommes d'armes massacrés abreuvaient de leur sang l'entrée du jardin. Prudence en détourna les yeux parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux. Du moins, fût-ce ce dont elle voulut se persuader. Elle rajusta et épousta rapidement ses effets. Sa robe avait des accrocs là où les piquets de la claie l'avaient déchirée et avaient écorché ses jambes. La Mystagogue n'en tint aucun compte. Elle revint tout droit vers le couple formé par la ci-devant duchesse et le seigneur de Verre. Leurs séides s'interposèrent aussitôt, et le jeune Rivalon maintint la religieuse à distance de la longueur de son épée. Sans un regard pour se faire sanglant, Prudence apostropha Méléagant de Verre. « Comment osez-vous usurper ces armoiries ?» Le prince ducal la toisa de haut en bas.
« Qui est cette folle ? » demanda-t-il à sa mère.
« Un peu de respect, beau doux fils. »
Le gourmanda Odéarde sur un ton ironique. « Vous vous adressez à la Mystagogue Prudence de Mondoir, la révérende mère de ce sanctuaire. »«
Voici donc le dragon qui vous gardait enchaîné ?»
s'esclaffa Méléagant. « Oh, la révérende mère Prudence est bien plus que cela !» Tout en continuant à piquer de son arme la poitrine de la religieuse, Rivalon perdit son indifférence étudiée. Un mélange d'étonnement et de considération se peignit sur sa figure. « Prudence de Mondoir ? » releva-t-il. « La poétesse ? » «
Épargnez-moi ces civilités !» adjura la mère supérieure. « Seigneur Méléagant, vous avez obtenu ce que vous vouliez ?» « Arrêtez le bras de vos gens !»«
La poétesse en personne !»
poursuivait Odéarde comme si de rien n'était. « Et bien plus encore !»«
Oh !» réagit Rivalon. « Dans ce cas... »
Il abaissa son épée et se fendit d'une courbette.
« Très honoré, dame » salua-t-il. « Vous rencontrer est un privilège. »«
Connais-tu ces vers, Rivalon ?»
demanda Méléagant.
Quelques-uns, la ballade des premiers frimas et la cage du chardonneret. Ces complaintes sont assez mélancoliques et un peu embarrassantes pour leurs altesses ducales. Dame Azalaïs m'aurait fait couper la langue si je vous les avais déclamées.
Des cris d'épouvante et de désolation, entremêlés d'éclats de voix féroces, continuaient à retentir à travers les corps de bâtiment. Chaque hurlement glaçait d'horreur la mère supérieure. Et le tourbadin que prenait la conversation au milieu de la mise à sac lui paraissait relever d'une terrifiante extravagance.
« Au nom de tout ce que vous avez de plus sacré, supplia-t-elle, je vous en conjure, retenez vos gens.
Il se trouve, madame la poétesse, que vous avez longtemps séquestré ce que j'ai de plus sacré,
répondit Méléagant avec mordant. Non sans désespoir, Prudence reconnut dans le jeune homme la dureté de son père. Elle était bien placée pour savoir que le duc était peu accessible à la pitié. Le salut ne viendrait pas de ce fils taillé dans la même étoffe. Elle se tourna alors vers Odéarde de Maginois et joignit les mains en un geste implorant.
« S'il faut vous venger, faites retomber votre colère sur ma personne, mais épargnez le sanctuaire et ses serviteurs !»
La grande dame lui coula un sourire condescendant.
« Ne la trouvez-vous pas touchante, beau doux fils ?» demanda-t-elle.
« Sa proposition est courageuse, » concéda Méléagant. « Elle contrefait assez bien la noblesse. Quel était son vrai nom, déjà ?»«
Oriabelle Coilvert, » énonça Odéarde en détachant les syllabes avec dédain.
« Coilvert, » ricana le prince. « Voilà bien un nom qui sent le ruisseau. La prochaine fois que je croiserai le bâtard, je l'appellerai ainsi. Mais se souvient-il seulement de sa mère ?»
Prudence sentit le sang se retirer de son visage. Chacune de ses paroles ravivait de vieilles plaies qu'elle avait cru cicatriser. Elle se raidit surtout contre elle-même, contre l'envie incoercible de répliquer. Tout comme ses frères et sœurs payaient pour elle, elle essuyait une rancune qui avait dévié de son objet. Toutefois, avec le détachement que lui procurait le choc, elle mesurait non seulement l'inutilité de raisonner ses oppresseurs, mais les violences que pareille initiative eussent prolongées. Elle en éprouva presque un haut-le-cœur. Elle ne se résigna pas moins à s'abaisser davantage pour offrir à ces êtres hautains la seule chose qui pût les apaiser. La mystagogue tomba à genoux devant la robe de Samy et les solerets d'acier. « Au nom de la courtoisie et de votre magnanimité, pressa-t-elle, je vous supplie d'épargner les ministres de la déesse. »«
Ma foi, plaisanta Méléagant. Improvisez un bourrimé sur ce thème et je reconsidérerai peut-être votre requête. »«
Allons, allons, mon gentil seigneur. La supérieure en appelle à vos vertus chevaleresques, tempéra sa mère. Et quoiqu'elle ne soit point de sang bleu, elle ne m'a pas été de trop mauvaise compagnie. » D'un signe de tête, elle ordonna à Rivalon d'aider la mystagogue à se relever.
« Eh bien, si vous n'en êtes point fatigué, invitons-la à verre, » proposa le prince. « Peut-être nous sera-t-elle utile pour brider Domnal ?»
Mais la ci-devant duchesse refusa de la tête.
« Non, beau doux fils, n'imitons point les mauvais agissements de votre père. Libérer les dames est tout à votre honneur. En capturer une, ternirait votre blason. Votre prouesse aura plus d'éclat si vous l'ornez d'un tant soit peu de clémence. »
« Comme vous m'avez manqué, mère, vous êtes de bons conseils, comme toujours. Je me plierai volontiers à votre gouverne, d'autant plus volontiers, à vrai dire, que Burchard de Gueld n'est plus en mesure de témoigner en faveur de ma mansuétude. »
« Voilà qui est fâcheux. Mais ne vous en repentez pas outre mesure, ce triste sire tenait absolument à me mettre au cachot. En attendant, rassemblez vos gens. » Je me suis suffisamment langui de la liberté pour m'attarder plus que nécessaire dans ces murs. »
Pendant que le seigneur de Verre envoyait Rivalon rallier sa troupe, Prudence se fit violence pour remercier Odéarde de Maginois.
« Ah, ce n'est rien, ma chère, » répondit la grande dame. « Ne vous ai-je pas dit que je vous protégerais ? J'ai tenu parole. Nous sommes quittes ou peu s'en faut. »
Elle chargea Almodie de lui préparer quelques affaires pour le voyage, puis, rayonnante de joie, embrassa à nouveau son fils.
« Voyez-vous, » lança-t-elle cruellement à Prudence, « à défaut d'avoir reçu la grâce de la déesse, l'amour de mes enfants me console. »
Puis, tout en passant tendrement les doigts dans la chevelure de Méléagant, elle ajouta d'un ton léger,
« Au fait, mon chéri, au moment de partir, donnez ordre de tout brûler. »
La mystagogue crut qu'elle avait mal entendu, mal compris, ou que la duchesse déchue jouait au chat et à la souris.
« Madame, » dit-elle sans parvenir à voiler son émotion, « il n'est guère décent de plaisanter en présence de ces pauvres gens qui ont perdu la vie. »
Odéarde la toisa d'un œil peu amène.
« Mais qui vous dit que je plaisante ? » rétorqua-t-elle.
Ces mots furent lâchés avec tant de sécheresse que Prudence accusa le coup.
« J'épargne votre existence et celle de vos religieux, » poursuivit la grande dame, « du moins celle des desservants qui n'ont pas résisté. Cette miséricorde n'aura de sens que si je montre ma force. M'évaderai-je en vous laissant sauver votre communauté, votre sanctuaire, je passerai pour une simple fuyarde. La bonne société ne verrait en moi qu'une aventurière et non un chef de parti. » Quant à mon cher mari, il me ferait poursuivre au lieu d'ouvrir des pourparlers. Et puis, pour parler net, il faut bien que j'obtienne réparation de cette année d'emprisonnement. Mon doigt partira en cendres. »
La supérieure recula d'un pas devant la malfaisance mûrement réfléchie de l'ancienne duchesse.
« Ce sacrilège vous détruirait, »
souffla-t-elle.
« Quel sacrilège ? C'est vous qui avez consenti à faire de votre temple une prison. J'abats la prison et non le temple. Vous savez que la situation est plus compliquée que cela. Elle me paraît au contraire d'une clarté limpide. Vous m'avez gardé enfermé par crainte de mon mari. En changeant de camp,
La peur restaurera mon autorité.
À profaner la demeure de la déesse, vous ne gagnerez qu'un stigmate d'infamie.
Il est parfois opportun de confirmer les imbéciles dans leurs préjugés en endossant un stigmate.
Ayez pitié de votre âme.
S'enorgueillir de ses crimes est la voie la plus directe de la perdition.
Quel crime ?
Mon fils me libère et vous élargit par la même occasion.
Vous allez être soulagé de cette charge que vous n'avez pas choisie et qui vous écrase depuis si longtemps.
La mystagogue chancela. Elle devait se rendre à l'évidence.
Non seulement la duchesse déchue ne reviendrait pas sur sa décision, mais elle jouissait d'être suppliée et de se montrer intraitable.
Il ne restait plus qu'un ultime recours à la mère supérieure, et elle s'en épouvantait.
Car s'il maintiendrait l'autorité de la religion, il scellerait aussi la ruine de Mondoir.
« Maudite sois-tu, Odéarde de Maginois !» murmura-t-elle.
Et puis, libérant la colère de jadis, elle reprit son souffle et cria à pleine gorge.
« Au nom de la déesse, maudite sois-tu dans ta maison, maudite sois-tu dans tes champs, maudite dans la nourriture de ton ventre et dans le fruit de tes entrailles !»
Elle ne put aller plus avant dans l'anathème. Méléagan lui écrasa son poing gantelé sur le visage, tout en grognant d'un air ennuyé.
« Taisez-vous donc, vieille putain !»
Il fallait qu'elle se relevât. Elle ne se souvenait plus comment elle était tombée. La chute avait été rude, en tout cas. Elle s'était écorché les jambes, meurtri l'épaule et probablement fendu le crâne.
Sans doute avait-elle chuté la tête la première, tant ses idées étaient confuses et sa face douloureuse.
Que s'était-il passé? Quelqu'un avait laissé griller quelque chose sur le feu.
Dans ce cas, pourquoi gisait-elle sur le gravier d'une allée et non sur le dallage des cuisines?
Elle voulut appeler, mais la bouche lui faisait trop mal.
Personne ne s'occupait donc de cet âtre.
Il fallait qu'elle se relevât.
Quand elle parvint à se redresser sur un coude, les premières choses qu'aperçut Prudence furent le coffre et les sièges abandonnés sur le belvédère, non loin du parapet.
Quel désordre, se dit-elle.
En plus, quelqu'un avait négligé de refermer la porte de la maison abbatiale. À en juger par les fumerolles que soufflait l'embrasure, la cheminée tirait très mal.
Et puis quel était donc ce vacarme qui lui cassait les oreilles?
Qui osait donc rompre la sérénité des cloîtres avec ses cris et ce tocsin?
D'un seul coup, la mystagogue recouvra ses esprits.
Elle se mit à gémir de souffrance et d'horreur. L'effroi lui donna la force de se relever, mais à peine debout, tout le jardin des simples se mit à tourner autour d'elle, avec ses carrés soigneusement entretenus, ses fumées dérivantes et les dépouilles sanglantes des trois sergents du chevalier de Gueld.
Elle tituba, les bras ouverts, faillit choir à nouveau.
« Ô divine sagesse, supplia-t-elle, soutenez-moi. »
La tête lui lançait comme si elle avait reçu un coup de marteau.
Elle voyait parfois double. Des gouttes de sang frais maculaient sa robe et son scapulaire.
Mais elle finit par retrouver l'équilibre.
Sitôt qu'elle se crut capable de dominer sa faiblesse, elle partit d'une démarche incertaine vers les bâtiments monastiques.
Prise de quinte de tout dans la fumée qui envahissait les galeries intérieures, elle ne put retrouver son souffle qu'en atteignant le cloître principal. Il y régnait un désordre effroyable.
Prudence ne vit aucune flamme, mais les fenêtres de la bibliothèque recrachaient d'épaisses bouffées blanchâtres et l'on entendait distinctement crépiter un brasier.
Le frère Viator essayait d'organiser une chaîne depuis le lavatorium pour lutter contre le sinistre. Mais les religieux se passaient des récipients dérisoires, cruches, marmites et même chantepleurs, dont le contenu serait vaporisé sans étouffer les flammes si l'incendie prenait de l'ampleur.
Un myste surgit soudain hors du scriptorium, trébuchant sous le poids des codex qu'il venait de sauver.
Il les jeta sur un amoncellement de livres échoués dans les plates-bandes du jardin central.
Sa robe fumait, son visage était noir de suie.
Prudence eut du mal à reconnaître le frère vindicien au moment où il s'engouffrait à nouveau dans le bâtiment. La mystagogue fut prise par un vertige. Elle se rattrapa contre une colonne, mais une religieuse secourable se précipita également pour la soutenir. « Oh, ma mère, vous êtes blessée !» s'écria une voix compatissante. Prudence eut de la peine à identifier la sœur Clémentia. Les traits fins de la maîtresse d'atelier étaient barbouillés de cendres. La sueur et les larmes y avaient tracé des sillons crasseux. Sa détresse était si manifeste que la mère supérieure n'eut pas le cœur de lui reprocher ses intelligences avec la ci-devant duchesse. De quel droit l'eût-elle fait, d'ailleurs? N'avait-elle pas été la première dupe de la prisonnière? Primait désormais l'urgence de sauver ce qui pouvait l'être. « Où sont Odéhard et le seigneur de Verre ?» demanda-t-elle. « Ils viennent de partir avec leurs gens. » Qu'est-il arrivé au chevalier de Geld? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de morts et de blessés à la porterie. Il se trouve sans doute parmi eux. La mystagogue serra les poings pour lutter contre un nouvel étourdissement. Il faut vous asseoir à l'air libre, ma mère, intima Clémentia. Je vais me débrouiller pour panser ces plaies que vous avez à la tête. Mais Prudence refusa énergiquement. Où le feu a-t-il pris? S'enquit-elle. Dans chaque bâtiment, ou presque, ces impies couraient partout avec des torches. Ont-ils profané le temple? Je ne sais pas, j'essayais de sauver les livres. Sont-ils descendus dans les chambres onirocritales? Il était inutile d'en dire davantage. La maîtresse d'atelier se pétrifia. Sous la suie qui lui souillait le visage, son teint devint de craie. Au milieu des violences et de l'affolement, elle avait oublié l'essentiel. Le devoir sacré de maintenir inviolé le triple mystère. « Suivez-moi !» ordonna la mystagogue. Et sans plus tarder, les deux religieuses se précipitèrent vers le portail de la souveraine Ontosophie. À peine eurent-elles franchi le seuil, elles surent que le pire s'était produit. Bizarrement, la nef était plus sombre que d'ordinaire. On n'y voyait nulle flamme, et les candélabres orfèvriers avaient été volés. Leur cierge éparpillé au sol. Mais il faisait anormalement chaud dans le sanctuaire, et l'on entendait distinctement, au-dessus de la rotonde, le grondement de l'incendie qui dévorait les charpentes. Les objets et les lampes du culte avaient disparu. Blasphème odieux, les voiles en tissu précieux qui couvraient la déesse avaient été pillés. Vêtue de sa seule robe de pierre, l'effigie divine paraissait presque nue. Au pied de la statue gisait le corps d'un myste, qui avait probablement cherché à la défendre. Prudence le rejoignit pour voir si on pouvait encore le sauver. Le malheureux était au-delà de tout secours terrestre. La mère supérieure eut du mal à identifier le visage défiguré du chantre Ledèze. « Oh, sainte miséricorde !» gémit Clémentia en reconnaissant son ami. « Venez !» commanda la mystagogue presque durement, car elle craignait elle aussi de succomber à la faiblesse et au désespoir. Les deux religieuses longèrent la balustrade du chancel et s'engagèrent dans l'un des escaliers de la crypte. Par une ironie cruelle, dans ce monastère en feu, elles n'avaient point de lumière. Une fois descendues les premiers degrés, elles s'enfoncèrent dans les ombres. Au dernier moment, la sœur Clémentia retint sa supérieure par le coude. Un reflet vague avait attiré son attention sur une marche que Prudence avait failli fouler. Elles recueillirent le minuscule objet et l'examinèrent dans la paume de la mystagogue. C'était une piécette frappée dans un alliage sans grande valeur et mise dans une monnaie inconnue, à la légende incompréhensible. Deux coups de couteau en avaient rayé l'avers. Les pieuses femmes furent prises d'un frisson et tracèrent précipitamment la mandorle. Ce jeton faisait partie des reliques dévotement conservées derrière la porte de Corne. L'une des entrées au moins du triple mystère avait été profanée. Elles reprirent la descente avec des précautions presque épouvantées. Leurs yeux s'habituant à l'obscurité, elles retrouvèrent d'autres menus objets éparpillés sur les dernières marches et au pied des escaliers. Furent ramassées, avec un mélange de consternation et de révérence, une amulette nomade figurant un tigre des steppes, un fragment de marbre noir traversé d'une veine rougeâtre,
un petit astrolabe de marine, dont les disques avaient été agglomérés par le vert-de-gris. Ces babioles dépareillées étaient en fait des trésors oniromantiques. Au cours des siècles, chacune avait été rapportée par des mystes du sanctuaire au réveil d'un songe augural. Elles étaient autant de signes de la faveur accordée à la communauté par la vieille déesse. Ces reliques favorisaient le passage des dormeurs entre le monde mortel et l'empyré. Mais seraient-elles tombées entre de mauvaises mains? Leur essence eût pu alimenter la plus noire des sorcelleries. Les soudards qui avaient profané le sanctuaire ignoraient le pouvoir de ces talismans. Ils n'avaient volé que la chasse d'or et de bois de rose qui les contenait, en vidant le coffret précieux dans leur fuite. Des ténèbres profondes régnaient dans la crypte, que perçait à peine la veilleuse de la chapelle souterraine. La flamme créait un miroitement tremblant à la surface de la fontaine de vérité, mais projetait plus d'obscurité que de lumière derrière les colonnades basses. La mystagogue et la maîtresse d'atelier se précipitèrent vers l'abside, espérant que seule la porte de corne avait été fracturée. Issue des ombres, un mouvement menaçant coupa leur élan. Elles n'étaient pas seules au fond des chambres onirocritales. Devant les trois porches sacrées se déplaçaient lentement des ombres cuirassées. La faible lueur de la veilleuse alluma des reflets métalliques sur leurs armures. Les spectres paraissaient plus grands que nature, leurs aumes frôlant l'arc bas des voûtes. Ils circulaient entre la porte d'émeraude et la porte d'ivoire, en se déplaçant dans un silence absolu. Quelques chatoiements bleutés coururent sur les harnois. L'un des marcheurs projeta une ombre couronnée d'un cimier d'épines. Le tremblement de la veilleuse éclaira brièvement les pies aux ailes coudées qui blasonnaient l'écu d'un autre. Ils s'effacèrent trop vite pour avoir eu tous le temps d'entrer par le troisième porche.
« Déesse miséricordieuse !»
s'affola la sœur Clémentia.
« Des fantasmes de l'entre-monde !»«
Il faut fermer les portes avant que les réels ne se condensent !» pressa la mystagogue. Tout en redoutant de voir se manifester d'autres apparitions, les deux religieuses gagnèrent les porches. Elles commencèrent par refermer le plus périlleux, la porte d'ivoire. Tout au plus entrevirent-elles l'espace exigu qu'elles dissimulaient. Les vandales avaient dû être déçus en forçant les serrures. Les lourds battants de bois renforcés de ferrures ne défendaient que d'étroits réduits dans la maçonnerie. Seule la niche fermée par la porte de corne contenait une chasse à reliques. Les deux autres étaient vides. Ce que les profanes ignoraient, c'est que ces seuils consacrés débouchaient sur des abîmes spirituels. Ouvrir ces portes interdites décelait en fait les âmes des insensés qui s'y risquaient. Ils devenaient eux-mêmes des trouées entre l'existence matérielle et les empyrées. Les plus dévots et les plus sages y consumaient leur existence en transe mystique. Les ignorants sombraient dans le malheur et la folie. Les sorciers y dévoyaient un pouvoir qui altérait tout ce qu'ils touchaient, à commencer par leur substance et leur destinée. Prudence s'arrêta un instant face à l'embrasure béante de la porte d'émeraude. Serrée contre son ventre sous son scapulaire, elle portait les reliques oniromantiques. Devant elle, bâillaient sous le porche de pierre les ressources intangibles de son esprit prêtes à se fondre dans l'infini. Le rappel d'un passé douloureux, l'humiliation et les blessures, la violence criminelle qui venait de s'abattre sur le sanctuaire firent vaciller sa foi. Elle hésita, soudain accessible à la tentation. À portée de main se trouvait le moyen d'une terrible revanche. Elle n'avait qu'à rompre ses vœux, des vœux que d'une certaine façon on l'avait contrainte à prononcer. Elle disposerait alors de la sagesse et des prestiges pour devenir l'une des puissances de Bromel.
« Révérende mère ?»
s'inquiéta Clémentia. Sans doute la maîtresse d'atelier crut-elle que sa supérieure se sentait mal, sans soupçonner le flageolement de sa conscience. Prudence sursauta malgré tout, comme si elle avait capitulé devant l'abîme.
« Je n'ai plus de force, » chevrota-t-elle. Aidez-moi à pousser ce battant.
Les deux religieuses appliquèrent leurs paumes contre la porte et la refermèrent. Mon doigt allait brûler, se désespéra la mystagogue. Du moins, ne serait-elle pas celle par qui le temple serait détruit ?